Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Jésus, j'ai confiance en toi. Alors, sixième conférence du genre, sixième jour de la neuvaine, c'est ces conférences n'ont aucune prétention, c'est-à-dire je n'ai pas la prétention de faire des conférences en bonne et due forme, très, très carrées, très fouillées théologiquement. Je voudrais ouvrir des portes, je voudrais vous aider à nourrir votre réflexion, notre méditation, notre réflexion sur les différents aspects du travail. Et donc aujourd'hui, le travail à la vigne du Seigneur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la vigne du Seigneur ? La vigne du Seigneur, c'est le champ là où le Seigneur œuvre. En fait, c'est son royaume, c'est le champ de son royaume. C'est son bien le plus précieux, c'est le royaume de Dieu. Enfin, il y aurait une grande méditation à faire sur le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Le royaume est parmi vous. Le royaume est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc à la fois nous sommes le royaume de Dieu, nous sommes membres du royaume de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu, et à la fois nous sommes envoyés pour annoncer le royaume, pour le faire grandir, pour l'étendre sur la terre, c'est-à-dire au fond pour gagner les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire gagner les hommes ? Ça veut dire faire connaître cette bonne nouvelle de Jésus, faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Annoncer au monde que Dieu est amour et que tout homme est aimé infiniment. Infiniment au point qu'il est aimé au prix de la vie de Dieu même. Dieu donne sa vie pour chacun. Je vais lire la prière de la neuvaine, la prière du jour, et puis je vais essayer de... L'optique de ces conférences, l'optique de ce cycle, c'est d'essayer de comprendre, essayer de réfléchir en quoi la Vierge Marie a quelque chose à nous apprendre dans telle ou telle facette du travail, dans tel ou tel domaine du travail. Alors on a étudié déjà pas mal de facettes, le travail de l'enfantement, le travail de l'autorité, le travail de l'éducation, etc. Aujourd'hui, en quoi la Vierge Marie, quelle est la place de la Vierge Marie dans le travail, dans la vigne du Seigneur ? Notre-Dame du Travail, je vous offre et je vous consacre mes tâches quotidiennes et celles de tous les hommes. Après l'ascension du Seigneur, vous avez gardé les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. À vous, ô Mère du Ressuscité, j'offre aujourd'hui le labeur des apôtres de notre temps, de tous ceux qui travaillent à la vigne du Seigneur. Reine des apôtres, guidez et encouragez les missionnaires, ceux qui se lancent dans l'aventure de la nouvelle évangélisation. Soutenez ceux qui sont persécutés pour leur foi et réconfortez ceux qui souffrent pour l'Évangile. Reine du ciel, accueillez dans la gloire ceux qui donnent leur vie pour le nom de Jésus. Ceux qui travaillent dans la vigne du Seigneur, ce sont les consacrés, mais d'une façon plus générale, tous les chrétiens qui se sentent missionnaires, tous les chrétiens qui se sentent envoyés, tous les chrétiens qui se sentent concernés par cette œuvre de mission. Et alors on a un pape qui répète ça, qui mieux presque tous les jours. On peut peut pas être disciple du Seigneur sans être en même temps missionnaire. Donc, en réalité, c'est tout chrétien, tout baptisé devrait se sentir ouvrier dans la vigne du Seigneur. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la onzième heure, peu importe, mais ouvrier dans la vigne du Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes tous concernés, tous autant que nous sommes, chacun à notre place et chacun selon notre grâce, nous sommes tous concernés par l'œuvre du Seigneur, le travail de sa vigne. Cette expression a été peut-être mise en valeur davantage par Benoît XVI quand il est devenu pape, vous vous rappelez peut-être, certains d'entre vous, quand au balcon de la basilique Saint-Pierre, il s'est présenté comme humble ouvrier dans la vigne du Seigneur. C'était très impressionnant. Il se considérait comme simple participant à cette mission générale. En méditant la vie de Marie, en méditant certains épisodes de la vie de Marie, je voudrais essayer de voir comment elle a quelque chose à nous dire sur ce travail dans la vigne du Seigneur. D'abord, Marie, si je prends chronologiquement dans sa vie, c'est la présentation de Marie au Temple. C'est un mystère qui est assez peu connu, qui n'est pas directement dans l'Évangile, parce qu'on a absolument rien sur l'enfance de Marie dans l'Évangile, mais qui nous vient essentiellement de l'Évangile de Saint Jacques, un texte apocryphe. Et la tradition nous l'a rapporté. La tradition, vous savez bien, elle a une valeur importante dans l'Église. La tradition n'est pas à rejeter, parce que la tradition nous dit quelque chose et qu'il faut mûrir et travailler théologiquement. Et donc la tradition nous rapporte que Marie, tout enfant, a été présentée au Seigneur, au Temple. Marie, la tradition a rapporté qu'elle a été l'objet d'une naissance miraculeuse de la part d'Anne et Joachim. Anne et Joachim étaient déjà vieux, n'avaient pas d'enfants. Et Anne a été enceinte très tard de Marie, une naissance, un don de Dieu. Et en remerciement, il y avait déjà des précédents dans la Bible, précédents dans l'Ancien Testament. Anne, mère de Samuel, a présenté son enfant au temple très très tôt. Le petit Samuel a été offert au temple dès la première année de sa vie. Et la tradition nous rapporte que Marie a été comme ça très tôt offerte au temple pour être totalement consacrée au Seigneur. Alors on pourrait dire que Marie a été consacrée au Seigneur par ses parents, mais Marie, dont la conscience est absolument pure, elle est immaculée, dont l'intelligence et la conscience sont absolument pures et transparentes, Marie se présente elle-même au Seigneur, c'est-à-dire elle se consacre au Seigneur, elle s'offre au Seigneur. Et certains d'entre nous, quand on a eu l'âge de raison, 6, 7, 8 ans, certains d'entre nous, d'une façon très consciente, se sont offerts au Seigneur. C'est assez classique, enfin ça arrive dans des familles chrétiennes, dans des familles des familles où on aime le Seigneur, où on connaît le Seigneur, où on prie. Moi, je me rappelle des moments très précis de mon enfance où j'appartenais à Dieu, j'avais le sentiment d'appartenir à Dieu. Pour Marie, étant donné qu'elle est immaculée, le premier réveil de sa conscience, bien avant ce que nous appelons, nous, l'âge de raison, le premier réveil de sa conscience, elle est tout entière tournée vers le Seigneur. Évidemment, le premier réveil de sa conscience est orienté vers Dieu parce qu'elle a conscience d'être tout à lui. Et elle s'offre, elle répond à ce don, elle répond au don de Dieu par un don d'elle-même total. Au fond, c'est la raison pour laquelle Marie est la mère de tous les consacrés. Elle est le modèle de tous les consacrés. Elle est celle qui se consacre en premier. Elle est celle qui s'offre. Alors on a formalisé ça dans l'Église après avec les vœux, les conseils évangéliques, les vœux des conseils évangéliques, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Mais pour la Vierge Marie, c'est pas explicite, mais tout est implicite. C'est-à-dire, elle est tout entière offerte. Elle s'offre tout entière. Et à mesure que sa conscience grandit, à mesure que sa conscience s'approfondit, à mesure qu'elle a une intelligence qui s'éveille à la réalité et en même temps au-dedans d'elle-même, Marie, sans cesse et sans jamais la moindre faille, sans jamais la moindre sans jamais le moindre défaut, Marie s'offre totalement, elle se consacre au Seigneur. Elle est offerte corps et âme. Nous, nous avons besoin de refaire ces consécrations régulièrement. Et pour certains d'entre nous, pour certaines formes de vie particulières, il y a une consécration particulière. Il y a une consécration dans des vœux, c'est-à-dire d'une manière formelle dans l'Église pour certains. Mais la consécration au Seigneur n'est pas réservée aux personnes consacrées. Tout chrétien, tout baptisé est appelé à répondre au don de Dieu par une consécration de lui-même. D'ailleurs, cette consécration, elle est réalisée le jour de notre baptême, puisque nous avons été marqués par le Saint-Crème, nous avons été consacrés par le Saint-Crème. Qu'est-ce que c'est consacrer ? C'est mettre à part. Mettre à part, c'est réserver pour Dieu. À partir du moment où nous avons reçu le don de Dieu, nous sommes consacrés pour le Seigneur. Vous vous rappelez cette prière de Jésus dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, « Je me consacre moi-même, consacre-les toi Père, consacre-les dans la vérité. Moi je me consacre moi-même pour qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. » Et Marie est celle qui est la parfaite imitatrice de Jésus. Donc Marie, elle est parfaitement dans la mouvance de Jésus qui se consacre. Elle se consacre totalement et elle peut le faire dès sa toute petite enfance. Peu importe que la tradition ait rapporté qu'elle ait 3 ans, 4 ans ou 5 ans, on s'en fiche. Dès l'éveil, le tout premier éveil de sa conscience. Et c'est la raison pour laquelle Marie sera la mère de tous les consacrés, mère et modèle de tous les consacrés. Consacrée dans la vie religieuse, dans la vie religieuse explicite, dans la vie religieuse formelle, mais la mère de tous les consacrés, de tous les baptisés. Elle exerce cette maternité en ce sens que comme dit la chanson, elle est la première en chemin. Elle est la première sur cette route, elle précède, elle est la première disciple du Seigneur et donc la première consacrée au Seigneur. Et dans sa consécration, elle nous apprend à répondre à cet appel. Si on voulait détailler un peu en ce qui concerne la pauvreté, la chasteté, l'obéissance de Marie, il y a une sorte de perfection. Elle est étant immaculée et n'ayant jamais péché, le péché n'a jamais eu de prise sur elle, elle est absolument et totalement transparente à la grâce, totalement transparente à l'œuvre de l'Esprit. Alors elle est servante du Seigneur, elle le dira formellement à l'ange, le jour de l'Annonciation, je suis la servante du Seigneur. Mais elle se présente, elle, comme la toute première des ouvriers à la vigne du Seigneur, puisqu'elle est la servante, elle se considère depuis toujours et toute sa vie comme au service de la mission que Jésus veut lui donner, au service de la mission que Dieu veut lui donner. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça résume en quelque sorte. Enfin, on peut regarder Marie tout entière à travers cette réponse. Elle est modèle de ceux qui se consacrent au service du Seigneur. Et je peux me consacrer au Seigneur, mais je me consacre au service du Seigneur et de sa vigne, c'est-à-dire au service de son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'œuvre de Dieu devient mon œuvre. Mon œuvre, c'est de travailler à l'œuvre de Dieu. Saint Paul dira, pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est le Christ qui vit en moi. Marie pourra le dire d'une façon absolument parfaite, elle, au moment de l'Annonciation, puisqu'elle est tellement servante du Seigneur qu'elle devient la mère. Elle engendre, dans la chair, celui qui se donne à elle. Ça, c'est... On pourrait dire, mais alors, comme les cris qui s'élèvent de la foule dans l'Évangile, « Oh là là, dis donc, heureuse celle qui a été ta mère, et heureux les seins que tu as sucés. » Et vous rappelez la réponse de Jésus, « Non, non, heureux plutôt... » Oh, ça c'est gentil, là. Vous êtes une mère pour moi.
Je croyais que c'était un sourd.
Oh, que vous êtes bonne. Non, non, dit Jésus, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Qui écoute la parole de Dieu mieux que Marie, évidemment. Elle écoute tellement la parole de Dieu que la parole de Dieu se fait chair en elle. Elle est tellement servante de la parole du Seigneur, elle est tellement servante de Dieu que la parole prend chair. Il faut beaucoup essayer de regarder ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la parole prend chair ? La parole, qu'est-ce que c'est cette parole ? C'est la parole d'amour, la parole d'amour de Dieu. Au commencement était le Verbe, on a revu ça hier avec le catéchuménat. Au commencement était le Verbe, au commencement, à la racine, au principe, dans l'origine. Le Verbe, la parole de Dieu, la parole d'amour. Et au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, vis-à-vis de Dieu, et le Verbe était Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette parole prend chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est important parce que c'est un mystère qui est pour nous, c'est un mystère qui nous est donné. Ça veut dire que nous tous, nous sommes appelés, nous avons la vocation à laisser la parole de Dieu prendre chair en nous, non pas d'une façon... biologique, c'est-à-dire évidemment, on ne va pas accoucher d'un enfant nouveau. Mais en vérité, en toute vérité, nous sommes appelés à former en nous le Christ pour le donner au monde, pour mettre au monde le Christ. C'est le tout premier travail dans la vie du Seigneur, c'est rendre présent le Christ au monde. Comment est-ce que je peux rendre présent le Christ au monde ? Et comment est-ce que je peux rendre présent le Christ dans mon bureau, dans ma maison, parmi mes amis, dans tous les cercles de vie dans lesquels que je fréquente ? Eh bien, c'est en étant tout entier consacré au Seigneur, en étant tout entier attentif à la parole de Dieu, pour garder cette parole et que la parole prenne chair en moi, et que je puisse dire avec saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Il me semble, c'est vraiment la toute première mission du chrétien, c'est la première manière, elle est pour tous, chacun selon sa grâce, mais c'est le premier travail dans la vie du Seigneur. Rendre Jésus présent, porter Jésus au monde, donner Jésus au monde, mettre Jésus au monde. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, celui-là est ma mère. Donc j'ai la mission, c'est ma première mission dans la vie du Seigneur, j'ai mission à devenir, à l'école de Marie, mère de Jésus. C'est très impressionnant ça en fait. Je suis frère de Jésus parce que je suis frère de Jésus, enfant du même père, j'ai été adopté par le père de Jésus. Mais au fond, j'ai pour mission de devenir aussi mère de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire mère de Jésus ? Ça veut dire que j'ai cette capacité divine dans l'Esprit-Saint de mettre au monde l'enfant-Dieu. Mettre au monde l'enfant-Dieu, c'est mettre au monde Jésus. Le Concile a une considération très, très forte sur l'Église. L'Église est le sacrement de la présence de Jésus au monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Église, elle est le visage de Jésus pour le monde. Elle doit rendre visible Jésus pour le monde. Mais l'Église, c'est moi, je suis membre de l'Église. Toute l'Église n'est pas moi, mais moi je ne suis pas l'Église, mais l'Église, c'est moi, en quelque sorte. Nous sommes membres du corps du Christ. Et donc le monde, c'est ma mission, le monde devrait pouvoir on en est tous loin, hein, mais peu importe, c'est notre mission, c'est un chemin. Le monde devrait pouvoir connaître le Christ en me regardant vivre. Vous voyez, avant même de faire des choses, avant même d'être prêtre, missionnaire ou quoi, le baptisé est missionnaire parce qu'il reçoit cette mission dans le baptême lui-même. Il est consacré au Seigneur pour être dans la vigne du Seigneur, une manifestation de l'amour de Dieu. Ça va très loin, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais ça va très loin et ça nous engage beaucoup. Quand je me confesse, je devrais pouvoir dire, ben, je n'ai pas été fidèle à cette mission parce que telle personne de mon entourage, à travers mes paroles, à travers mes regards, à travers des gestes peut-être, ils ont vu beaucoup de choses, mais ils n'ont pas forcément vu Jésus. J'ai trahi celui qui comptait sur moi pour être plus que son porte-parole, pour être son visage. Là, en contemplant la Vierge Marie, en me mettant à l'école de la Vierge Marie, c'est-à-dire en la fréquentant, et je la fréquente en lisant l'Évangile, mais je la fréquente en lisant l'Évangile avec elle. Et lire l'Évangile avec elle, c'est dire le rosaire. C'est le rosaire. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres chemins, mais le rosaire est un des moyens, parce que le rosaire me fait vivre chaque étape de l'Évangile, chaque étape de la vie de Jésus me la fait vivre dans le regard de Marie, dans la manière que Marie a de vivre chaque étape. C'est beau ça, c'est... Cette consécration, pour Marie, elle est absolue. On a vécu ici le départ et on a accompagné notre petite sœur Marie-Liès au Carmel, Marie-Liès de la Rédemption. Et la vocation du Carmel, elle est assez radicale. Et peut-être que c'est la plus radicale de toutes, parce que c'est un véritable holocauste. Il ne reste plus rien. Tout est brûlé. Vous vous rappelez le sacrifice du Mont Carmel ? Lisez, relisez le sacrifice du Mont Carmel, parce que c'est très très beau, mais on ne peut pas comprendre la vocation du Carmel, mais on ne peut pas comprendre la consécration de Marie si on n'a pas lu ce sacrifice du Mont Carmel. C'est quelque chose de... Vous rappelez, Élie a donné rendez-vous sur la montagne du Carmel, précisément. Il a donné rendez-vous à tous les prêtres de Baal et il dit, écoutez, soit c'est les Baals qui sont Dieu, soit c'est Dieu qui est Dieu, soit mon Dieu. Et maintenant, il faut que tout le monde le sache. Alors, on va faire un truc. Vous connaissez l'histoire, Voilà, 18 du premier livre des rois. Et donc, tout le monde est rassemblé sur le Mont Carmel, et Élie dit aux prêtres de Baal, vous allez offrir un sacrifice à vos dieux, à vos Baals, moi je vais faire un sacrifice pour mon Dieu, et vous n'allez pas mettre le feu au bois du sacrifice, vous allez prier vos dieux, et si le feu descend du ciel, ben, celui qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Alors les prêtres de Baal installent leur sacrifice, vous vous rappelez? Et puis ils gueulent toute la journée, enfin ils crient, ils vitupèrent, ils font tout un tas de gestes rituels. Et puis il n'y a pas de réponse et le sacrifice reste non offert puisqu'il n'est pas brûlé. Et puis Élie dit vers la fin de la journée, il dit bon maintenant ça va bien, venez rassemblez-vous, vous allez voir. Puis alors il installe le sacrifice, le taureau sur le bois, et puis on verse de l'eau, et puis encore une fois, on inonde complètement le bassin. Et puis Élie prie le Seigneur, et Seigneur, montre à tous que tu es Dieu et que tu es le seul Dieu et montre ta force. Et puis le feu du ciel descend sur la terre et tout est brûlé, tout le sacrifice est emporté, le taureau, le bois et même l'eau qui est emportée, il n'y a plus rien, tout est cramé. Voilà. Ça c'est le sacrifice du Mont Carmel. Quelqu'un qui entre au Carmel, la grille tombe, c'est fini, il n'y a plus rien. Tout est brûlé, tout est consacré au Seigneur. Alors ceux qui ont déjà visité le Carmel savent que commence à découvrir tout doucement, je parle ici pour les amis de Marie-Liesse, mais commence à découvrir tout doucement, c'est un long chemin, mais on découvre tout doucement que, en réalité, cette grille nous fait découvrir une merveille, nous fait découvrir un véritable trésor, parce que y a tout passe par l'intérieur maintenant, il n'y a plus cette barrière humaine, cette barrière corporelle, il y a comme un chemin souterrain qui se fait, qui est infiniment plus profond, plus fécond, plus... Vous voyez, c'est comme si tout ce qui est humain, tout ce qui est affectif, tout ce qui est psychologique, tout ça est purifié, complètement cramé, et il reste un lien direct. La Vierge Marie, elle est le modèle, évidemment, elle est le sacrifice du Mont Carmel parfait, parce que Dieu a pris possession d'elle complètement. À l'école de la Vierge Marie, pour être serviteur, pour être au service, pour être ouvrier dans la vigne du Seigneur, et je prie, je demande au Seigneur de venir prendre possession de moi-même, prendre possession de ma vie. Prends, Seigneur, prends ma vie, prends ce que je possède, prends et serre-toi bien, prends tout ce que tu veux. Est-ce que nous avons l'audace de vivre cette prière? Cette prière n'est pas réservée aux prêtres ou aux bonnes sœurs. C'est une prière du chrétien. Seigneur, prends mon mari, prends ma femme, prends mes enfants, prends ma maison. Vous vous rappelez l'évangile de ce matin? Celui qui abandonne pour moi, qui laisse tout. Ça ne veut pas dire que le mari doit abandonner sa femme. Bon, salut, ciao, je suis consacré au Seigneur, je m'en vais. Mais non, ça veut dire que tous mes amours, tout ce que je vis, tout ce que j'aime, est totalement offert au Seigneur. Et ça prend du coup une dimension complètement différente. Mes collègues de travail, mes voisins, tout est vu désormais dans la lumière de cette possession, dans la lumière de cette offrande au Seigneur. Alors Marie, mère des missionnaires, Marie, dès l'Annonciation, s'en va en hâte vers sa cousine Élisabeth. Ce verbe qui s'est incarné en elle, cette parole d'amour qui s'est fait chair en elle, Dieu vivant en elle, Marie ne se referme pas sur lui. Marie ne reste pas assise chez elle sans rien faire, elle va. Et aussitôt, en hâte, elle va porter celui qu'elle porte, elle le porte, elle devient le porte-parole. Au sens très fort, elle permet à Jésus d'aller vers qui il veut aller. Et donc elle va vers Élisabeth, sa cousine, et à travers Élisabeth, vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui sera lui aussi, plus tard, le porte-parole de Jésus. La voix qui crie dans le désert. Et je suis la voix, je ne suis pas la parole, je suis la voix. C'est magnifique le mystère de la visitation, hein, mais c'est un mystère de mission. On a commenté ça un jour pour les cellules paroissiales d'évangélisation. Marie est le modèle pour nous dans les membres de cellules, parce qu'elle porte Jésus à Élisabeth et à Jean-Baptiste à travers elle. Il y a une joie, une hâte. On dirait, le pape François dirait dans son exhortation apostolique sur la sainteté, il parle beaucoup de la parésia. C'est un mot grec qui dit à la fois l'audace et la ferveur. Il y a un élan. Comment elle s'appelait cette petite bonne sœur en Égypte, là, du Caire, la chiffonnière du Caire. Sœur Emmanuelle, elle dirait Yallah. Yallah, c'est l'expression de cette parésia, vous voyez, c'est l'expression de cette audace, de cette ferveur, de cet élan de vie. Et alors, Marie est celle qui est complètement portée par celui qu'elle porte. Elle est mue du dedans par celui qu'elle porte. Ça, c'est une réflexion extrêmement importante. Marie est mue du dedans par celui qu'elle porte. Je pourrais bien distribuer ma fortune aux pauvres, je pourrais bien avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, je pourrais bien parler toutes les langues de la terre. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est-à-dire, je pourrais faire des tas de choses. Faire des tas de choses, c'est totalement stérile, ça ne sert à rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Mais si c'est le Christ en moi qui agit, alors ça c'est tout à fait différent, parce que c'est son œuvre. Et travailler à la vigne du Seigneur, c'est pas je crache dans mes mains et puis je vais prendre un loucher et puis je vais y aller. Travailler à la vigne du Seigneur, si je me mets à l'école de la Vierge Marie, c'est laisser Jésus en moi venir et laisser l'élan de l'Évangile me porter moi. Mais très facilement, on dit « il faut que je fasse ci, que je fasse ça, et j'ai ceci à faire. » Bon. Et puis on se plaint souvent parce que c'est stérile, mais parce que c'est moi qui fais. Mais vous pourriez faire tout ce que vous voulez, c'est stérile si vous n'êtes pas porté du dedans, si vous n'êtes pas mu du dedans par l'amour de Jésus. J'en rougis, hein, parce que je suis comme tout le monde, je suis pêcheur, et comme j'ai plutôt par nature de l'énergie, je suis obligé de combattre régulièrement pour que mon énergie ne soit pas la mienne, mais celle du Seigneur à travers la mienne. Et c'est une grosse conversion à faire. Vous voyez, des gens qui font, on en a plein. Bon, des gens qui sont flemmards, on en connaît, hein. Mais des gens qui font, on en connaît plein. Mais l'essentiel n'est pas de faire, l'essentiel est de permettre à Jésus de faire en moi et par moi. Alors ça, c'est autre chose. Parce que du coup, c'est son esprit en moi qui va agir. Et ça, c'est autre chose. Et là, il faut regarder les saints. Mais les saints, il n'y a pas de secret. Les saints, ils sont à l'école de la Vierge Marie. Elle est la reine de tous les saints. Et elle est la reine de tous les saints parce qu'elle est celle qui m'apprend à vivre de cette manière. Et en contemplant la visitation, en contemplant la naissance à Bethléem, en contemplant toutes ces étapes de sa vie, je vois, je comprends mieux. Mais c'est une imprégnation progressive. C'est pas, vous voyez, c'est pas un jour j'ai compris. C'est jour après jour, en se mettant à son école, on apprend à vivre. Mais c'est un véritable retournement. C'est ça, vraiment la conversion. La conversion apostolique, la conversion missionnaire. Quand Paul VI dit « l'Église existe pour évangéliser », sa raison d'être, la raison d'être de l'Église, c'est l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation ? C'est porter la bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle, c'est faire connaître Jésus. Faire connaître Jésus, c'est manifester son visage. Bon, Marie n'a pas d'autre mission que celle de porter Jésus. C'est ça que ça veut dire, mère de Jésus. Et c'est ma mission, c'est la mission de chacun, c'est la mission, chacun selon sa grâce, aux consacrés, aux religieux, à la religieuse, aux prêtres, tout ça, ça prend des modalités différentes. Mais c'est au fond la même réalité. Donc Marie donne cet élan, et c'est pour ça que les papes successifs, depuis Paul VI d'ailleurs, nous présentent Marie comme mère de la nouvelle évangélisation. C'est Marie qui va nous aider, qui va nous apprendre à découvrir les chemins de la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire découvrir pour notre monde les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, la manière de porter Jésus à notre monde. c'est de d'éveiller les cœurs. C'est ça, ça devrait nous hanter. Je pense que petit à petit, ça vient dans la paroisse, ça s'imprime, ça se. Mais ça devrait nous hanter. Vous voyez, encore tout à l'heure, je vous dis un exemple idiot, mais parce que ça me brûle. On est en train de bavarder sur le parvis. Bon. Il y a quelqu'un qui veut passer en vélo. C'est tout bête, hein. Et ça bouche. Alors il s'arrête. Il finit par passer. Il est passé. Mais nous, on n'a rien vu. Et lui, je ne suis pas sûr qu'il ait rencontré des regards. Je ne suis pas sûr qu'il ait rencontré des chrétiens. Il a rencontré des gens qui bavardaient sur le parvis. Je ne suis pas sûr qu'il ait rencontré des chrétiens. Ça me brûle, ça. Mais je me prends en défaut aussi, hein. Je ne suis pas en train de faire la leçon, parce qu'on est tous en défaut. Vous voyez, on est un petit groupe, on est en train de pique-niquer dans le square, tout ça, mais c'est parfait, et c'est magnifique, je bénis le ciel. Mais jamais, jamais, jamais le souci des voisins ne devrait nous quitter d'une seconde. On ne peut pas inviter tous les gens des immeubles, bien sûr qu'on ne peut pas les inviter tous. Mais est-ce que ma manière d'être, voilà, ça c'est la nouvelle évangélisation, hein. Est-ce que ma manière d'être, ma manière de parler, ma manière de regarder, ma manière d'être attentif, ma manière d'être gentil et bon, c'est pas la gentillesse en tant que gentillesse, c'est un regard de miséricorde, un regard qui tout ce qui concerne les hommes doit me passionner. Et là, la Vierge Marie est notre modèle. La Vierge Marie, elle a ce truc. Elle est attentive, elle sent les choses, vous voyez. Et c'est pour ça qu'à Cana, elle va voir ce que personne n'a vu, elle va voir qu'il n'y a plus de vin. Elle sent les choses, et elle précède, elle devance, et elle présente à Jésus. Elle présente la détresse des hommes, elle présente les besoins des hommes, elle les présente à Jésus, mais alors avec un effacement. Il faudrait commenter, je ne suis pas là pour commenter toutes les pages de l'Évangile, mais elle présente ça à Jésus avec une pauvreté totale. Ils n'ont pas de vin, basta. C'est toi qui sais ce que tu as à faire. Marie ne donne aucun conseil à Jésus. Elle donne un conseil au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Mais elle ne donne pas de conseil à Jésus. Et elle ne se laisse pas démonter. Quand Jésus lui pose cette question assez étonnante, en tout cas très étonnante pour nous, pas étonnante pour elle. « Femme, que me veux-tu ? Quoi de toi à moi ?» Bon. Marie ne dit rien. « Faites ce qu'il vous dira. » Et de fait, l'eau est transformée en vin. Je pense profondément que le travail à la vigne du Seigneur commence là, c'est-à-dire dans cette source, dans cette manière particulière que la Vierge Marie nous apprend. C'est important pour nous aussi parce que nous sommes sans cesse, évidemment, soucieux de répondre à l'Esprit Saint, de répondre à l'appel de l'Esprit Saint. Et nous régulièrement, nous appelons, et nous avons raison de le faire, bien sûr, nous prions l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint nous envoie, que l'Esprit Saint nous habite pour que nous puissions aller vers le monde. C'est là que c'est très, très important de se rappeler, ce que ici, évidemment, je pense, vous connaissez par cœur maintenant, mais c'est le moment de le redire quand même, que Marie, elle est comme un visage de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, quand je regarde Marie, je vois l'Esprit Saint. Quand, le jour où j'ai découvert ça, pour moi, ça a été un bouleversement considérable. Moi, depuis mon enfance, on m'avait expliqué que l'Esprit Saint, c'était le feu. On m'avait expliqué que l'Esprit Saint, c'était du vent. Que l'Esprit Saint, c'était je ne sais pas quoi. Enfin, bon, vous voyez, quand on me dit Dieu est Père, moi, je sais ce que c'est qu'un Père. J'ai eu la chance d'avoir un Père. Quand on me dit Dieu, c'est Jésus, je connais Jésus maintenant. Enfin, je connais Jésus. Je sais qui il est, j'apprends à le connaître, mais je n'ai pas de peine à découvrir un homme qui marche avec les hommes. Et un homme qui me parle de son Père en permanence. Mais quand on me parle de l'Esprit Saint, moi je suis sec, enfin en tant que tel. Hein. Jusqu'au jour où on m'a expliqué ça, et c'est essentiellement avec Saint Maximilien Marie Kolbe que j'ai appris ça, Marie est pleine de grâce, Marie transparente, Marie immaculée, Marie comme le cristal, Marie comme le diamant. Et elle est traversée par la lumière, elle donne de l'éclat à la lumière, et comme le diamant, elle disparaît dans la lumière. Comme le cristal, il disparaît dans la lumière. Et plus, quand je regarde cette carafe et que je mets dans la lumière, je vois beaucoup la carafe et un petit peu la lumière. Enfin, pas mal la lumière, mais je vois tous les défauts de la carafe. Et les petits trucs en suspension dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plus cette, si mettons une carafe en cristal, ça va donner un éclat particulier à la lumière. Et imaginez une carafe ou un verre en cristal pur ou en diamant pur, je ne vois plus que la lumière. Notez d'ailleurs que je ne peux voir la lumière que grâce au verre, parce que sinon je ne sais pas ce que c'est la lumière, moi, je ne vois pas la lumière. Je ne vois la lumière qu'à travers quelque chose qui lui donne de l'éclat. Eh bien, Marie, elle est le diamant le plus pur qu'on puisse imaginer, qui donne le qui reflet parfait de la gloire de Dieu, pur reflet de la gloire de Dieu, pur reflet de l'Esprit Saint, puisqu'elle est absolument transparente à la lumière. Rien, moi je suis fasciné par ça, rien, absolument rien en elle ne fait obstacle à l'Esprit Saint. Et donc, tout en elle me dit l'Esprit Saint. Physiquement, psychologiquement, intellectuellement, tout en elle, sensiblement, tout en elle me dit l'Esprit Saint. Et donc, quand je regarde Marie, je vois l'Esprit Saint. Elle n'est pas l'Esprit Saint, mais quand je la regarde, je vois l'Esprit Saint. Et c'est formidable ça, c'est formidable parce que quand je regarde son visage, quand je regarde son sourire, quand je regarde son regard, je vois l'Esprit Saint. Et elle permet à l'Esprit Saint de devenir visible pour un missionnaire, pour quelqu'un qui veut travailler à l'œuvre de Dieu, qui veut travailler à la vigne du Seigneur. Évidemment, il faut avoir le regard fixé sur l'Esprit Saint. Et donc on ne devrait jamais quitter du regard la Vierge Marie. Impossible, aujourd'hui plus qu'hier encore, de travailler à la vigne du Seigneur autrement que les yeux fixés sur la Vierge Marie. Impossible, impossible. Mais son regard, vous voyez, quand je regarde cette espèce de mélasse du monde d'aujourd'hui, de violence du monde d'aujourd'hui, de noir, de enfin, on est dans un monde terrible, terrible, qui a des beaux aspects. Hein. En famille, on vit des belles choses. En paroisse, on vit des belles choses. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint est là. Parce que là où il y a l'amour, Dieu est présent. Ubi caritas, Dieu est aussi bi est. Dieu est présent partout où il y a de l'amour. Même un amour très, très imparfait. Mais Marie, c'est l'amour parfait. Elle est parfaitement traversée par l'amour. Dieu, amour. Elle en est le parfait reflet. Alors, Marie qui se laisse guider par l'Esprit Saint, qui l'habite complètement, vit tous les événements avec une totale obéissance, avec une totale... Elle est absolument abandonnée à la grâce de Dieu. On devrait en faire notre méditation vraiment quotidienne. Il y a des moments très particuliers, comme la naissance à Bethléem, comme le recouvrement de Jésus au temple. Vous voyez, Marie vit tout, elle vit tout dans sa sensibilité humaine, elle vit tout dans une parfaite sensibilité, mais une sensibilité absolument pure, et donc sans jamais d'inquiétude. Ou plus aussi, elle est inquiète, mais elle n'est jamais troublée. Une des questions les plus... On en a parlé mille et mille fois ici, et je le refais encore une fois, parce que c'est inépuisable. Quand Marie pose la question à Jésus, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Marie ne demande pas des comptes à son fils. Elle demande « Qu'est-ce que je dois en faire ? Comment est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... » pour être conforme à ce que tu veux. Pourquoi nous as-tu fait cela ? C'est une question c'est une question infinie. On n'aura jamais fini de répondre à cette question. Vous voyez, devant un événement qui nous frappe, alors il y a les événements que nous vivons dans nos familles, les événements que nous vivons dans nos travaux, dans notre vie concrète, mais il y a les événements que nous vivons aussi en Église, dans la mission Église. Et encore une fois, chacun selon sa grâce et chacun selon son chemin. Mais il y a plus d'une fois où nous avons envie de dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi comme ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Et là, il faut vraiment se mettre à l'école de la Vierge Marie pour apprendre à poser la question pourquoi. Un pourquoi qui ne demande pas des comptes, un pourquoi qui ne provoque pas, un pourquoi qui n'est pas un pourquoi qui n'est pas insolent, un pourquoi qui est simplement le pourquoi d'un enfant. Maman, pourquoi? Vous savez, les enfants qui posent des questions aux parents, hein, 3-4 ans, là, on commence à poser des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Mais pourquoi la porte, elle est ronde au-dessus? Mais pourquoi la lumière, ça éclaire? Et pourquoi le bleu, c'est bleu? Enfin, vous voyez, il y a... Et il faudrait qu'on ait ce cœur d'enfant pour entendre des réponses qui ne satisfont pas notre intelligence, mais qui nous aide à avancer. Marie ne comprend pas ce que Jésus... Ça, c'est fascinant, ça, quand même. Hein. Et heureusement que c'est marqué dans l'Évangile, parce que c'est tellement, tellement... C'est tellement fort pour nous. Marie ne comprit pas, d'ailleurs pas plus que Joseph, ils ne comprirent pas ce que leur disait Jésus. Et c'est très, très rassurant, je trouve, de savoir que dans la vie, on n'a pas besoin de comprendre. On a besoin simplement de savoir comment et par où avancer. Et là, la Vierge Marie nous apprend. Elle gardait toutes ces choses et les méditait soigneusement dans son cœur. Et on verra 30 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, au moment du calvaire, elle verra à quel point elle a fait tout ce chemin intérieur grâce à cette expérience de la perte de Jésus au temple, enfin, la perte de Jésus et son recouvrement au temple, à quel point Marie a médité ces choses dans son cœur pour que le jour du calvaire, le jour de la mort de Jésus, le jour où il sera au tombeau, elle n'est plus inquiète, elle est infiniment douloureuse, mais elle n'est pas inquiète. Comment est-ce que nous vivons, ça aussi ça me brûle, comment est-ce que nous vivons les événements du monde d'aujourd'hui? Comment est-ce que nous vivons les événements de l'Église dans le monde d'aujourd'hui? Comment est-ce que nous vivons l'Église humiliée, l'Église défigurée, l'Église... C'est très, très important de Et, ou bien je me désolidarise en disant « mais ça, c'est pas moi ». Ou bien je prends tout sur moi, mais je me laisse écraser. Ou bien, à l'école de la Vierge Marie, je prends la juste distance, qui n'est jamais une distance, mais qui laisse un espace, qui laisse une respiration. Alors, j'en parlerai beaucoup la prochaine fois, parce que la prochaine fois, c'est le travail et ses blessures. Donc, on reparlera beaucoup de la souffrance la prochaine conférence. Mais déjà quand même, un mot de Marie au pied de la croix. Parce que... Marie, au pied de la croix, elle vit, et elle vit par le dedans, toutes les blessures de son fils. Elle vit d'une façon non sanglante, mais d'une façon en plénitude, le sacrifice de son fils. Marie est martyre avec son fils, vraiment. Mais Marie, alors ça j'en reparlerai la prochaine fois, puisque je vois l'heure qui passe, mais Marie vit vraiment, elle découvre au pied de la croix, elle découvre au calvaire la source de toute espérance. Ça c'est... Non seulement elle n'est pas désespérée au calvaire, non seulement elle n'est pas détruite par la souffrance, mais elle y découvre la source de son espérance, elle découvre la source de tous les oui qu'elle a donnés depuis son enfance. Tous les oui qu'elle a dit dans sa vie, et d'ailleurs toute sa vie est un oui, mais elle découvre là la source, le cœur ouvert, la source de ses oui, dans le oui de son fils, dans l'acceptation, dans le oui de Jésus. Ça, c'est insondable, on n'a jamais fini. Mais on progresse dans cette direction, on avance. Elle vit à côté de son fils, défiguré, humilié, qui n'a plus figure humaine, comme dit le chant du serviteur dans le livre d'Isaïe. Nous le pensions maudit de Dieu, rejeté, mais c'était nos souffrances qu'il portait, c'était nos péchés qu'il portait. Et Marie vit, elle ne le comprend pas plus qu'au premier jour, mais elle le vit profondément. Et il me semble que travailler à la vigne du Seigneur aujourd'hui, dans notre monde, dans notre Église, on ne peut plus faire l'économie de ça, si tant est qu'on n'ait jamais pu la faire, l'économie. Hein. Mais aujourd'hui, ça prend une acuité très très particulière. Parce que l'Église est peut-être plus humiliée qu'elle n'a jamais été. Parce que l'Église est peut-être plus défigurée qu'elle n'a jamais été. Parce que, comme les apôtres, je fous le camp en disant « j'ai peur ». Est-ce que cette peur pourrait me conduire jusqu'à, avec Pierre, renier mon maître ? Ou avec Judas, dire « mais non, il se trompe, l'Église se trompe, l'Église va trop loin, là, il faut arrêter. » Et même avec une trahison. Ou bien avec Jean, je suis de tout près, je colle à la sainteté de Marie, et je me réfugie contre elle, alors je la reçois pour mère, et du coup tout est changé. Un dernier mot, si vous voulez, parce que ça aussi, j'enfonce des portes ouvertes, hein, parce que vous connaissez tout ça par cœur, mais peu importe. Marie refuse des pécheurs. Depuis que j'ai découvert ça aussi, ça m'émerveille, et puis j'essaye d'en vivre. Vous rappelez, enfin j'ai dit ça souvent, mais où Pierre est-il allé après avoir renié ? Le Vendredi Saint, il n'a pas pu ne pas regarder de loin ce qui s'est passé. Le soir du Vendredi Saint, où est-ce qu'il est allé ? Il est allé chez Marie. Comment est-ce que je dis ça ? Comment est-ce que je peux me permettre de dire ça ? Ce n'est pas dans l'Évangile. Mais le dimanche matin, le jour de Pâques, quand Marie-Madeleine file, court, parce que le tombeau est vide et qu'elle veut annoncer la nouvelle aux apôtres, elle trouve Pierre et Jean ensemble. Elle trouve Pierre et Jean ensemble. Pierre et Jean, c'est parce qu'il est avec Marie. Marie est avec Pierre, avec Jean. C'est, puisque dès cette heure-là, c'est-à-dire dès l'avant-veille, le disciple l'a pris chez lui. Mais Pierre est avec Jean. Pourquoi Pierre est là ? Pierre n'est pas là pour Jean. Hein. Pierre est là parce qu'il savait que Marie était la seule personne au monde qui pourrait l'accueillir sans le juger, sans le condamner. Pierre est allé se consoler tout contre Marie. Ça, je trouve ça formidable. Vous voyez, quand on travaille à la vigne du Seigneur, nous aussi, on est blessés. Nous aussi, nous sommes blessés par le péché. Nous aussi, d'une manière ou d'une autre, chacun selon nos fautes, mais nous avons renié le Seigneur. Si Pierre l'a fait, vous savez, il ne faut pas imaginer qu'on est meilleur que lui. Hein. Pierre, il a renié le Seigneur. Alors, il y a 36 000 manières de le renier, mais toutes les fautes qu'on fait, y compris des fautes sexuelles, pourquoi pas ? N'importe quoi. Marie refuge des pécheurs. Marie est la seule personne au monde qui peut nous accueillir sans nous juger, sans nous rejeter, sans nous condamner. Et Pierre, grâce à la force qu'il va puiser chez Marie, à la force de l'humilité, il porte l'humiliation de sa faute et il reprendra sa place de chef. Ça, c'est fantastique. Hein. On pourrait en parler longtemps. Je parle plus de Marie que de Pierre, là, mais Pierre a repris sa place de chef quelques jours plus tard. C'est dire la profondeur de son humilité. Et n'importe qui aurait foutu le camp, il aurait été se planquer en disant « Maintenant, après ce que j'ai fait, je ne peux plus me montrer, je ne peux plus me présenter, ce n'est pas possible. » Et beaucoup auraient dit ben, « Après ce qu'il a fait, c'est bien le moins que vous pouvez faire, d'aller se planquer, bon, on ne va pas le poursuivre, mais au moins qu'il ne vienne plus nous, hein, on ne veut pas le voir. » On renie celui qui a renié. Marie n'a pas renié celui qui a renié, elle l'a accueilli, elle le remet sur pied. Et elle permet à Pierre de vivre l'humiliation de sa faute. Ça, enfin, il y a beaucoup à méditer là-dessus. Hein. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte d'être humilié à mes propres yeux, humilié quelquefois aux yeux du monde, parce que j'ai fait des fautes dont je ne suis pas fier? Qu'est-ce qui me permet de vivre cette humiliation? Il n'y a que Marie qui puisse m'aider à la vivre. Il y a beaucoup à dire là-dessus, hein. Il y a beaucoup à dire. Il y a tellement de gens qui ont fait des bêtises, qui sont désespérés. Et le désespoir peut conduire au drame, comme il a conduit Judas. Nous ne sommes pas dans les cœurs, nous ne sommes pas dans les consciences. C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe dans les consciences. Mais, est-ce que j'accepte ou non l'humiliation de mon péché, qu'il soit public ou non public? Il me semble que la Vierge Marie est la seule qui me permette de vivre, d'accueillir cette humiliation. Parce qu'elle est mère de miséricorde, elle est le manteau de la miséricorde. Voilà, dans la vigne du Seigneur, vous savez, il y a des épines dans la vigne du Seigneur, il y a des ronces, il y a des trucs qui sont difficiles, il y a des gros écueils. Et quand on est blessé, quand on est sali, il y a même de la boue, il y a du fumier, il y a... Je me rappelle ce prêtre qui disait en riant, on peut pas en permanence traverser un fumier ou un champ d'ordures sans finir par puer la merde. Hein. C'est vrai. Donc on se salit. Hein. Quand on est à l'œuvre, quand on est au travail, on se salit. Bon, soit on en fait un drame, c'est une catastrophe, soit on va prendre une douche comme un enfant qui va se laver avec sa mère, qui apprend à se laver avec sa mère, et puis on repart. Et c'est ce que je nous souhaite à tous, qu'aujourd'hui, cette journée de fête de notre année du travail nous permette de repartir avec plus d'ardeur, avec davantage de confiance et avec une espérance profondément renouvelée. Amen.